Nous aimons ces enfants et nous voulons vraiment qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils marchent avec Dieu. Et donc ce matin, nous avons eu une lecture dans le chapitre 2 du livre des Actes. Et aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte et j'ai vraiment eu à cœur de rappeler l'importance de ce que Dieu a fait lors de cette Pentecôte et que l'on puisse vivre, continuer cette Pentecôte. On ne doit pas recommencer la Pentecôte de la même façon que Jésus est mort à Pâques. On ne va pas recommencer à tuer Jésus ou à le sacrifier. Il est mort une fois pour toutes. Et la Pentecôte a eu lieu 50 jours après Pâques. Et on ne va pas recommencer la Pentecôte. Elle a eu lieu une fois pour toutes. Par contre, on peut continuer ce qui a commencé lors de cette Pentecôte. La Pentecôte, au départ, est une fête juive, une fête biblique même, puisque Dieu, dans le livre du Lévitique au chapitre 23, a donné plusieurs fêtes qui devaient rythmer la vie d'Israël, le peuple de Dieu. Les fêtes commençaient à différentes époques, mais Pâques, le printemps, c'était normalement le début de l'année, la fête de la moisson. Vous savez que dans les pays du Sud, la moisson commence plus tôt parce qu'il fait chaud plus tôt. Nous, on a la moisson souvent en août, voire septembre des fois, mais là-bas, c'était au printemps. Et Pentecôte est une des fêtes de la moisson, une fête de joie, Pâques aussi d'ailleurs, hein, où on prenait les premiers blés et on les présentait au temple en remerciant le Seigneur. Et ces blés symbolisaient Christ, qui est le prémisse de la résurrection, le premier ressuscité. Et la Pentecôte, on devait présenter le fruit de ce blé. Avec le premier blé, on fabriquait de la farine. Avec la farine, on fabriquait du pain. Et donc les premiers pains étaient présentés dans le temple pour la fête de la Pentecôte et c'était du pain avec du levain. Alors c'est curieux parce que dans la Bible, aucun sacrifice ne devait être fait avec du levain. La farine devait toujours être pure sans levain parce que le levain symbolise le mal, la corruption, la fermentation, le péché. Jésus parle du levain des pharisiens, hein, leur mauvais enseignement pernicieux qui tordait les Écritures. Et donc, pourquoi deux pains levés ? Mais parce que dans l'Église qui allait démarrer à la Pentecôte, il y a des pécheurs, nous, des Juifs et des non-Juifs qui, pécheurs rachetés par Jésus-Christ, adorent le Seigneur, servent le Seigneur et sont unis par le Saint-Esprit. Donc voilà la fête de Pentecôte qui réunissait des milliers de Juifs de partout qui venaient en pèlerinage à Jérusalem pour fêter cette moisson. Ce que Dieu a fait ce jour-là, raconté par l'apôtre Luc, hein, c'est qu'il y a eu une moisson d'âmes surtout. Il y a eu 3000 personnes, nous avons lu, qui ont cru au Seigneur Jésus. 3000 Juifs, hein, la première église était entièrement juive. Et Jésus était juif, c'est bon de le rappeler, et la Bible est un livre juif, et la loi vient des juifs, le Messie vient des juifs, et nous sommes redevables en tant que non-juifs au peuple juif, et nous devons prier pour eux et leur apporter aussi la bonne nouvelle, leur dire « Jésus est le Messie que vous attendez pour ceux qui l'attendent ». Ce qui est extraordinaire dans ces fêtes que Dieu a annoncées, a demandé à Israël, c'est qu'il y avait d'abord Pâques, ensuite, Pentecôte, 50 jours après, et la fête d'après, est-ce que vous savez ce que c'est ? Pardon, j'ai mal entendu ? Non, il faut connaître l'Ancien Testament, c'est la fête des trompettes. Voilà. Et la fête des trompettes, donc Pentecôte, c'est la naissance de l'Église, le corps de Christ. Les disciples de Christ sont baptisés du Saint-Esprit, unis, ils ne font qu'un dans la famille de Dieu, et l'Église va exister un certain nombre d'années, un grand nombre d'années, et viendra dans le futur la fête des trompettes. Les trompettes sont pour sonner quoi ? Voilà, l'enlèvement, le rassemblement, et le rassemblement de tous les croyants de tous les temps se fera à l'enlèvement de l'Église. Ça se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens. Ce que nous attendons, c'est qu'un jour le Seigneur descende du ciel, qui sonne, qui est la trompette, qui ramasse, qui transforme d'abord, ressuscite tous les chrétiens morts depuis cette Pentecôte et que tous ceux qui sont vivants ce jour-là soient transformés en un clin d'œil et que nous rejoignions le Seigneur. Ça, c'est notre espérance, c'est notre attente On ne peut pas faire mieux que cela, c'est de rejoindre le Seigneur. Jésus a dit, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et donc la prochaine fête, c'est les trompettes. Alors préparons-nous, hein. Lorsque la trompette sonne, nous serons transformés. Mais en attendant, nous sommes toujours dans cette période de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est deux choses principales que j'aimerais souligner ce matin. Si vous deviez expliquer la Pentecôte à quelqu'un, comme notre sœur a dû le faire, hein, c'est bien de pouvoir savoir ce que c'est. D'abord, c'est une fête donc biblique, et c'est là qu'a commencé donc l'Église. Alors, l'Église n'est pas une organisation humaine. Ce n'est pas là que les apôtres se sont réunis, ils ont voté des statuts, ils ont créé une association loi 1901 en disant maintenant ça va s'appeler l'Église. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé, nous avons lu dans les Actes. Ils attendaient, ils étaient 120 dans la chambre haute à Jérusalem et un vent a commencé à souffler dans toute la ville. Tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Une sorte de tornade, hein, qui a soufflé à Jérusalem. Et les chrétiens réunis dans cette chambre qui priaient, hommes et femmes, ont été remplis du Saint-Esprit. Et là, l'Église est née, non pas par les hommes, mais par Dieu, le Saint-Esprit. C'est une œuvre de Dieu, l'Église. On critique beaucoup l'Église parce que l'Église, malheureusement, a failli dans pas mal de domaines, a dévié la parole de Jésus-Christ. L'histoire de l'Église n'est pas toujours glorieuse, même elle est souvent horrible. Mais depuis que Jésus a donné le Saint-Esprit, que l'Église existe, il y a toujours eu dans le monde et dans l'histoire des vrais chrétiens qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui vivaient les paroles de Christ. Souvent, ils ont été persécutés par les autres chrétiens, malheureusement, parce qu'ils n'étaient pas dans l'Église officielle. Mais ses frères et ses sœurs ont transmis le Nouveau Testament, la parole, le message de l'Évangile. Beaucoup de protestants sont morts en France pendant la Réforme pour traduire la Bible, pour répandre la Bible. Et nous sommes redevables à ces frères et sœurs, hein, qui ont payé de leur vie leur témoignage. Être chrétien, ça voulait dire avoir beaucoup de chances de mourir. En particulier à Paris, en 1572, lorsqu'il y a eu la Saint-Barthélemy, des milliers de protestants ont été tués sans procès, hommes, femmes, enfants, des milliers. Et on n'imagine pas, Paris est une ville agréable et touristique, mais il y a eu des drames qui se sont passés ici à cause de la foi, et nous devons être redevables à ces frères et sœurs, à ces témoins du passé. Et puis, il y a donc la naissance de l'Église, mais il y a aussi, deuxième chose, comment l'Église est née? Par l'intermédiaire de qui? Vous avez la réponse, mais... Qui a créé l'Église? Non, Pierre n'a pas créé l'Église, Paul non plus. Le Saint-Esprit, voilà, c'est ça. Peut-être que je n'ai pas bien posé la question, mais c'est bien de vous amener à réfléchir là-dessus. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on voit la bénédiction d'avoir le Saint-Esprit, la bénédiction d'avoir l'Église, mais avec toute bénédiction, il y a aussi une responsabilité. Si Dieu nous bénit, si Dieu nous gracie, si Dieu nous sauve, c'est aussi pour qu'on ait une responsabilité. On a cette tendance à dire, je suis béni, je suis sauvé, j'attends la vie éternelle et pendant ce temps-là, je vis ma vie n'importe comment. Non, quand on est sauvé, c'est pour servir. Quand on est béni, c'est pour partager la bénédiction avec les autres. Et c'est ça, l'amour de Dieu se partage, se répand. Alors, la première chose que j'aimerais souligner, donc, c'est ce don du Saint-Esprit, hein, et qui avait été promis, Jésus avait dit, je vais m'en aller, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il viendra et il demeurera en vous. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on ne réalise pas à quel point c'est extraordinaire que Dieu vienne habiter en nous par son Esprit. Beaucoup essayent de vivre la vie chrétienne par leurs efforts. Ils disent, bon, un chrétien, ça ressemble à quoi? C'est quelqu'un qui n'est pas trop mal habillé, qui a un langage à peu près châtié, qui va à l'église et qui fait des prières et qui lit un peu la Bible. Bon, si je ressemble peu ou prou à ce modèle, je vais être un chrétien. Ah oui, si j'oubliais, il faut qu'il ait quelques rites, donc il faut qu'il soit baptisé et qu'il soit passé par l'église. Ce n'est pas ça un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'est tourné vers Christ et qui a reçu l'Esprit de Jésus-Christ. Et quand l'Esprit de Christ vient, on est vraiment chrétien parce qu'on a Christ en nous. L'espérance de la gloire, hein, écrit l'apôtre Paul. C'est merveilleux d'avoir le Saint-Esprit parce que, encore une fois, imaginez que Jésus soit resté sur la terre à Jérusalem. Alors, il habite là, dans une des rues de Jérusalem. Et chaque fois qu'on a un problème, on veut prier le Seigneur Jésus. Oui, mais on ne va pas aller à Jérusalem chaque fois qu'on a un problème. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Eh oui, mais ça ne marche pas. Il y a trop de monde qui appelle. Est-ce qu'il y a un email? Oui, mais le serveur est complètement bouché en permanence. Mais comment on va faire? Moi, j'ai un besoin pressant, Seigneur. Le fait que le Seigneur Jésus soit parti est une bénédiction parce qu'il a envoyé son esprit dans le cœur de tous les croyants. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Moi, je ne peux pas partager mon esprit et le donner aux gens. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut prendre son esprit et le donner à ses disciples. Et donc, chacun de nous qui avons cru, on a Dieu en nous. Je ne suis plus tout seul. Je ne suis pas là à mener ma vie chrétienne avec mes forces. Je ne suis pas là à mener ma vie tout court. J'ai le Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque je suis tenté par le mal, lorsqu'il y a une tentation qui vient et que ma chair dit « Ah, ouh, je veux faire ça, je veux faire ce péché », on a le Saint-Esprit et on peut demander l'aide du Saint-Esprit. « Seigneur, donne-moi la victoire ». On a parlé de la victoire tout à l'heure. Lorsque on est découragé, lorsqu'on a des pensées vraiment de laisser tomber, de « J'en peux plus, j'ai des épreuves l'une après l'autre. Seigneur, je suis fatigué. » Physiquement, je n'ai plus la force. Moralement, mentalement, je n'arrive plus à être fort. Dans mon homme intérieur, on peut demander au Saint-Esprit. Il est là, le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de l'appeler, le téléphoner, lui envoyer un email. Il est là. Seigneur, fortifie-moi dans mon homme intérieur. Hein. C'est Paul qui écrit, hein, lorsque notre homme extérieur se détruit, lorsque notre corps fatigue, vieillit ou est malade, notre homme intérieur se renouvelle. Et comment il se renouvelle, l'homme intérieur? Par le Saint-Esprit qui le renouvelle. Chaque matin, on peut avoir la force du Seigneur par le Saint-Esprit. Et combien de chrétiens pensent à cela? On a parfois dans notre imaginaire cette idée que Jésus est loin et qu'on doit le prier. Seigneur, viens m'aider! Mais il n'a pas besoin de crier. Il est là, dans mon cœur. Le Saint-Esprit, sans lui, on ne ferait rien de spirituel. Hein. Il est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je ne pourrais pas prier sans le Saint-Esprit. Pourtant, ça arrive souvent qu'on prie sans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça fait quand on prie sans le Saint-Esprit? Ben, ça ne va pas très loin. Hein. Ça ne va pas très loin, il ne se passe pas grand-chose. La Bible dit « prier par l'Esprit ». Prier par le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit met sur notre cœur des sujets de prière. Que le Saint-Esprit nous donne la foi pour prier avec foi, nous donne l'amour pour prier avec amour, nous donne la victoire, la certitude pour prier avec ça, avec la persévérance aussi. Sans le Saint-Esprit, nos prières sont des petits discours humains, des prières de superstition. « Oh mon Dieu, j'espère que tu vas faire quelque chose. » Ça, ce n'est pas la prière par l'Esprit. Ça, c'est une phrase humaine. Mais la prière par l'Esprit, c'est « Seigneur, tu as promis dans ta parole, je crois en toi. » On ne pourrait pas annoncer l'Évangile, on ne pourrait rien faire sans le Saint-Esprit, pas prêcher, on ne pourrait pas chanter, se réunir ensemble, on n'aurait pas d'amour les uns pour les autres s'il n'y avait pas le Saint-Esprit. On n'aurait pas de joie spirituelle. La joie du chrétien est quelque chose d'extraordinaire, parce que la joie du chrétien n'est pas dépendante des événements. Quand j'étais un croyant, j'étais joyeux quand j'avais des sujets de joie, ce qui n'était pas souvent. J'étais plutôt déprimé la plupart du temps, mais de temps en temps, j'avais un sujet de joie. D'abord, quand je buvais un peu trop d'alcool avec les copains, ça me faisait rire et donc je pensais avoir de la joie. Ou quand j'avais une bonne nouvelle, de temps en temps, ah, je suis dans la joie. Mais c'était rare, c'était très rare. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, il y a une joie qui a démarré tout de suite et une joie qu'on ne pouvait pas éteindre. Rien n'arrivait à l'éteindre. Alors des fois, je me suis laissé un peu abattre. Effectivement, j'ai perdu ma joie, mais très vite, je suis revenu au Seigneur. Je dis, Seigneur, redonne-moi la joie. La joie sera de l'Éternel sera votre force. C'est notre force. Vous avez des difficultés, vous avez une tendance à déprimer, à voir le verre vide au lieu du verre plein. Vous êtes pessimiste, ou alors vous avez vraiment de quoi être pessimiste. Parce que quand on regarde notre civilisation, on voit les guerres, on voit le terrorisme, on voit la décadence, le chômage qui est très élevé encore, hein, qui est une complication, je pense aux jeunes en particulier. On peut se dire, mais quel monde nous promet-on? On nous promet un monde avec des robots, des machines partout, hein. Il n'y aura que ça bientôt. Tout sera des machines et des robots. Alors c'est merveilleux les robots et les machines, mais il y a un moment où ça devient inhumain. L'espérance du chrétien, ce n'est pas dans les machines, ce n'est pas dans le futur, ce n'est pas dans l'avenir, ce n'est pas dans la politique. L'espérance du chrétien, c'est d'avoir le Seigneur, de vivre avec lui tous les jours, d'avoir le Saint-Esprit en nous. Lorsque Satan veut nous décourager, lorsqu'il veut nous tenter, nous séduire, le Saint-Esprit peut nous avertir et nous éclairer. Lorsque on perd de vue le Seigneur, le Saint-Esprit peut nous ouvrir les yeux de la foi encore. Regarde, lorsqu'on ne comprend pas la Bible, le Saint-Esprit peut nous aider, nous éclairer. S'il vous arrive parfois d'être bloqué sur un passage biblique, en disant là, je ne comprends vraiment pas pourquoi il dit ça et qu'est-ce que ça fait dans la Bible, ce passage. Mais vous pouvez demander à l'auteur de la Bible. C'est ça qui est merveilleux. Quand vous avez l'auteur du livre, mais il n'y a pas mieux. Qu'est-ce que tu as voulu dire, Seigneur? Quel est le message que tu veux pour moi, là, dans ce passage? La bénédiction d'avoir le Saint-Esprit, Dieu en nous. Et la Bible dit dans Éphésiens, hein, que nous sommes scellés jusqu'à quand? Jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire jusqu'au jour de la résurrection, de la gloire. C'est-à-dire ce Saint-Esprit, il nous scelle. On ne peut pas le perdre le long du chemin. On peut l'attrister. On peut lui désobéir, hein? Mais on ne peut pas le perdre. On est scellé. J'appartiens au Seigneur. J'ai son Saint-Esprit. Est-ce que vous avez l'Esprit de Christ? Je ne demande pas est-ce que vous allez à l'église ou est-ce que vous avez la foi. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? La Bible dit si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous ne lui appartenez pas. Est-ce que j'ai Dieu en moi, dans ma vie? Et d'avoir Dieu en soi, ça amène une responsabilité. Ça veut dire que partout où je vais, Dieu est avec moi. Là, c'est plus embêtant, là. On est content d'avoir le Seigneur dans sa vie quand on a un problème. Mais quand on veut vivre dans le péché et qu'on est chrétien, le Saint-Esprit, il est là aussi. Il voit ce qu'on voit. Il va là où on va et on ne devrait pas aller. Il est là, il nous accompagne, il est avec nous quand on pêche. Et cela devrait nous reprendre. On devrait se dire, mais j'ai le Saint-Esprit. J'ai Dieu en moi. Est-ce que j'amènerais, si Jésus était sur la terre, est-ce que je l'amènerais voir ce que je suis en train de voir? Est-ce que je l'amènerais là où j'ai été hier soir? C'est un exemple. J'étais nulle part hier soir, j'étais chez moi. Est-ce que je ferais cette chose ou je dirais cette parole si Jésus était là avec moi dans la conversation? Est-ce que j'aurais ces conversations à table si Jésus était là, à table? Ouh, ça me ferait un peu réfléchir. Je ferais attention à ce que je dis parce que je ne voudrais pas choquer, blesser le Seigneur. Eh bien, le Seigneur, il n'est pas forcément là à table, mais il est encore plus près, il est dans mon cœur, partout. C'est ma responsabilité de dire, j'ai le Seigneur dans ma vie. Vous savez, Israël a beaucoup souffert dans l'Ancien Testament, hein, parce qu'ils n'ont pas toujours appliqué leurs responsabilités. Le Seigneur avait dit, vous serez un des témoins dans le monde entier, et ils ont plutôt été vers les idoles à un certain moment de leur histoire. Et lorsqu'ils ont été vers les idoles, Dieu a envoyé des nations, les Babyloniens en particulier, les Assyriens, pour châtier Israël. Il y a une responsabilité avec la bénédiction. Israël avait la bénédiction de Dieu. Ils ont vu des miracles fantastiques. Dieu s'est occupé, leur a donné une terre, les a bénis. Mais il y a une responsabilité. Nous ne sommes pas au-dessus d'Israël. Nous aussi, nous avons une responsabilité. On ne se moque pas de Dieu, dit la Bible. Si nous avons le Saint-Esprit, c'est pour être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour le mettre dans un coin. Dieu veut qu'on soit rempli. C'est-à-dire qu'il n'y ait rien en nous qui soit sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tous les domaines de ma vie soient spirituels. Ça ne veut pas dire que chaque fois que je dis un mot, il y a Jésus ou Dieu ou la Bible. Ce n'est pas ça, être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est que tout ce que je fais, toutes mes motivations, c'est par le Saint-Esprit. Quand je vais au travail, j'y vais par le Saint-Esprit. Quand je travaille, je le fais par le Saint-Esprit. Quand je suis à l'église, je suis avec et par le Saint-Esprit. Quand je conduis, quand je prends le métro, quand je fais la cuisine, quand je fais le ménage, quand je dors, quand je veille, quand je lis, je suis avec le Saint-Esprit et je veux le faire par le Saint-Esprit. Les premiers chrétiens que nous voyons là dans Actes 2, hein, on voit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, d'abord parce qu'ils avaient un courage, une audace extraordinaire, mais aussi ils avaient une joie et une simplicité de cœur, dit le passage. Ils n'étaient pas dans les complications, dans les trucs bizarres. Ils étaient dans la joie et la simplicité. Ils aimaient le Seigneur, ils s'aimaient les uns les autres. Et ils n'étaient plus dans le matérialisme, la course au matérialisme. Ils n'étaient plus dans la haine de l'autre, dans le jugement permanent. Ils étaient vraiment dans la présence de Dieu. D'avoir le Saint-Esprit, c'est une responsabilité aussi, parce que le Saint-Esprit nous appelle à être des témoins. Actes 1, 8. Jésus dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, mes témoins. » Est-ce que je suis un témoin? C'est ça le sens à notre vie chrétienne, c'est d'être des témoins. Et c'est pour ça que Dieu a donné le Saint-Esprit, c'est que nous ayons la puissance dans le témoignage. Un témoin, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui a fait les choses elles-mêmes, forcément, mais il raconte ce qui lui est arrivé. Voilà comment le Seigneur a touché mon cœur, a changé ma vie. Et un témoin, il doit être fidèle et véritable. Un témoin mensonger, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui est faux ou qui dit quelque chose qu'il n'a pas vraiment vécu. Et malheureusement, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de faux témoins. Les faux témoins qui parlaient de Dieu, qui faisaient la morale à tout le monde, mais qui vivaient dans le péché. Un bon témoin, un vrai témoin, c'est quelqu'un qui vit ce qu'il dit. Le témoin fidèle et véritable, c'est qui dans le Nouveau Testament? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a vécu ce qu'il a dit, mot pour mot. Hein. Quand il disait... Bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. On peut dire, waouh, c'est fort comme phrase. Eh bien, quand on l'a cloué sur la croix, il a prié pour ses persécuteurs. Il a dit, Père, pardonne-leur. Lorsque Jésus a dit à ses disciples, heureux serez-vous lorsqu'on va vous maltraiter. Eh bien, le Seigneur s'est laissé maltraiter et il n'était pas malheureux quand il était maltraité. Il avait même une joie particulière de souffrir pour le monde, de souffrir pour nous racheter. Le Seigneur a vécu ce qu'il a dit et nous, nous devons aussi vivre. Il n'y a rien de pire que l'hypocrisie. Il y a un verset du Nouveau Testament dans Timothée qui dit qu'à la fin des temps, les hommes vont avoir l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force ? De la vie chrétienne, le Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui vont avoir l'apparence de la piété. Oh, quel beau chrétien, quelle belle église. Mais il manquera la vie du Seigneur, le Saint-Esprit. Comment se manifeste le Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien? Encore une fois, ça se manifeste par la sainteté. La sainteté. Ça se manifeste aussi par la vie. Jésus a dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il y a une vie, quand on est rempli du Saint-Esprit, on fait des choses qui sont extraordinaires, je peux dire. Mais pas dans le sens spectaculaire ou dans le sens mondialement extraordinaire, mais extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. On quitte le ronron, le train-train, Et le Saint-Esprit nous amène à faire des rencontres avec des personnes, à aller dans des pays qu'on n'aurait jamais pensé voir, ou à faire des choses inimaginables. Beaucoup de choses sont nées par des chrétiens qui ont prié et qui ont reçu de Dieu un appel à faire ces choses. On parle souvent de certaines missions, ou je pense à la Croix-Rouge, ou aux hôpitaux, ou aux choses comme ça, sont des choses chrétiennes au départ. Et qui, au départ, étaient étonnantes. Les orphelinats, par exemple, personne ne s'occupait des orphelins. On les abandonnait. Et puis un jour, il y a des chrétiens qui ont dit, mais c'est pas possible, on peut pas avoir des enfants dans la rue comme ça, tout seul, abandonnés. Il faut les réunir, il faut s'occuper d'eux. Mais aujourd'hui, on dit, mais c'est évident, ça a toujours existé. Non, ça n'a pas toujours existé, les orphelinats. Un jour, il y a un chrétien ou des chrétiens qui ont dit, mais il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, il y a des besoins aussi. Le Saint-Esprit peut nous appeler à faire quelque chose. Il peut vous appeler à faire quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts à suivre le Saint-Esprit? Dans le livre des Actes, les chrétiens, au début, ils étaient à Jérusalem, mais très vite, il y a eu une persécution qui est arrivée et ils ont dû fuir. Aujourd'hui, il y a des chrétiens de toute confession, mais de toute dénomination, mais qui fuient l'Orient, qui fuient la Syrie, qui fuient l'Irak, qui fuient partout. Ils ne savent plus où aller. Nos frères à Nice ont récupéré un couple iranien, puisqu'en Iran aussi, il y a une persécution qui augmente des chrétiens. Il y a pas mal de chrétiens, d'ex-musulmans en Iran, qui deviennent chrétiens, mais ils sont, ça y est, persécutés, ça continue, ça recommence. Est-ce que je suis prêt à avoir une vie par la foi, une vie d'aventure, ou est-ce que je tiens à tout prix à mes pantoufles? Est-ce que je suis prêt à ce que le Saint-Esprit me fasse parler à cette personne à qui j'aurais jamais parlé normalement, à m'occuper de telle ou telle situation? Moi, je ne peux pas vous dire lesquelles, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous dire. Mais chacun de nous peut être poussé par l'Esprit à faire quelque chose. Le deuxième élément de la Pentecôte, c'est donc cette naissance de l'Église. L'Église est une bénédiction. Le fait d'avoir des frères et des sœurs, le fait de pouvoir se réunir. Église, c'est un mot, ecclésia en grec, qui veut dire une assemblée, une réunion. Mais en plus, la racine de ce mot, ça veut dire appeler horde. C'est-à-dire que l'Église, c'est des gens, des personnes qui sont appelées hors du monde pour être dans le royaume de Dieu. C'est ça l'Église. Nous ne sommes pas du monde, dit Jésus, nous ne sommes pas un club, je suis inscrit à un club d'échecs, un club de judo et à une église, voilà. C'est mes trois hobbies dans la vie. Et toi, tu fais quoi? Moi, je fais du golf, de la piscine et l'église. Ah, ben c'est bien. Non, l'église, c'est différent des clubs. C'est le peuple de Dieu, c'est la famille de Dieu. On ne doit pas aller à l'église parce que c'est dimanche matin, il faut que j'aille à l'église. Les premiers chrétiens, là, ils allaient combien de fois à l'église par semaine? Ils se réunissaient combien de fois? Tous les jours, ils étaient assidus. Et ils n'avaient pas d'église en tant que local. Ils n'avaient pas de local. Et ces 3000 personnes, ils se réunissaient là où ils pouvaient, dans les maisons ou dans le parvis du temple. Puisqu'ils étaient juifs, ils avaient le droit d'entrer dans le parvis du temple. Et là, ils faisaient des réunions chrétiennes dans le parvis du temple. Mais tous les jours, ils avaient envie d'être là. Pourquoi ils avaient envie d'être là tous les jours? Parce qu'ils étaient poussés par l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que pour eux, l'Église, c'était une bénédiction. Ils ont dit, enfin, j'ai des frères et des sœurs spirituels. On a tous une famille charnelle. Et parfois, ça ne se passe pas très bien. Ou, ce n'est pas que ça ne se passe pas bien, c'est qu'on n'a pas d'atome crochu avec notre famille charnelle. Mais dans la famille spirituelle, il y a un lien extraordinaire qui est le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ce lien fait qu'on est soudés. Vous pouvez, ici, il y a des personnes du monde entier, chaque dimanche, et on est frères et sœurs. On s'aime parce qu'on a le même Dieu. Pourtant, on est très différents de personnalité, de naissance, d'âge, tout ça, de pays, de culture, mais on est unis, on est une famille. Ça, c'est la bénédiction de l'Église. De pouvoir aussi être encouragé par les frères et sœurs. On est tellement individualiste aujourd'hui, ça va à un tel point que les gens disent « mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église ». Parce que de toute façon, je lis un livre, je vais sur Internet, je vais sur Top Chrétien, ou je ne sais pas, je vais, Et voilà, ça me suffit. J'écoute un message. Maintenant, on peut écouter les messages sur Internet. On le fait nous-mêmes. Hein. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Mais il ne s'agit pas d'aller à l'église. Il s'agit de se rassembler avec ses frères et sœurs. Si je ne suis pas poussé à le faire, si je n'ai pas l'amour pour mes frères et sœurs, s'ils ne me manquent pas pendant la semaine, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. L'Esprit de Jésus aime mes frères et sœurs. Alors si moi, je n'ai pas cet amour qui me pousse à aller voir le dimanche ou les autres jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis devenu individualiste. Certaines personnes vont à l'église pour elles-mêmes. Moi, je viens à l'église parce que j'ai des problèmes, donc les gens vont prier pour moi. Et puis aussi, j'entends un message, comme ça me fait du bien, et puis je peux repartir. Je serre la main à deux, trois personnes, salut, au revoir, ça va bien, oui, ça va. Est-ce que c'est ça la vie d'église? C'est ça l'église que Jésus-Christ a prévue dans les actes, dans la Pentecôte? Non. Il a prévu l'amour fraternel. Il a prévu qu'on ait une famille. Comment vas-tu? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Au lieu de penser à soi, on pense à l'autre. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est continuer la Pentecôte. C'est d'avoir cet amour fraternel. Mais on dit, mais comment vous avez cet amour fraternel? D'où ça vient? Mais plus je suis près de Dieu, plus j'ai cet amour. Ça ne se fabrique pas. Vous ne pouvez pas vous dire le dimanche matin, il faut que j'aime mes frères et sœurs, il faut que je fasse un effort. Non, on n'a pas besoin d'effort, il y a le Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez qu'il faisait un effort? Ces premiers chrétiens, il y en a même qui vendaient des biens matériels pour récolter l'argent et le distribuer aux pauvres dans l'église. Personne ne leur a rien demandé. Il n'y a pas un apôtre qui est venu voir, bon allez maintenant, il faut donner de l'argent. Non, c'est eux, par le Saint-Esprit, ils ont dit, ils ne supportaient pas de voir quelqu'un de pauvre, parce qu'à cette époque-là, il y avait des pauvres de pauvres. Hein. Il n'y avait pas d'assistance sociale. Et les chrétiens plus riches, ils disaient, mais on adore le Seigneur ensemble, on a le même sauveur, on est frères et sœurs, et lui, il vit dans la misère. Je vois bien que ses vêtements-là sont élimés, hein, et il y a des trous, on voit qu'il n'a pas mangé assez cette semaine ou ce mois-ci, et moi, je suis dans l'abondance. Je ne peux pas continuer à adorer le Seigneur et voir ce frère ou cette sœur dans cette situation, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, ils vendaient des choses, et avec le fruit, ils donnaient pour les pauvres, pour les aider matériellement. Je peux vous dire, c'est rare dans les églises. Hein? Mais ça devrait être plus fréquent. Encore une fois, on doit avoir cet amour ardent les uns pour les autres. Et si on ne l'a pas, on doit se repentir, dire « Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir ton esprit suffisamment. Je ne suis pas rempli de l'esprit de Dieu parce que je n'ai pas cet amour qui me remplit. Donne-moi ton amour, Seigneur. » Et ça fait partie de notre responsabilité. Avec l'Église, qui est une bénédiction, il y a une responsabilité, c'est de m'occuper des frères et sœurs. Ce n'est pas juste qu'on veut que l'Église soit la meilleure du monde ou qu'on ait 50 000 personnes à l'Église. Ça, c'est des raisonnements humains, encore une fois. Ce qu'on veut, c'est que nos frères et sœurs soient encouragés. On veut être là pour les encourager, les fortifier, prier pour eux, les aider. On veut qu'il y ait d'autres qui connaissent l'Évangile. Et c'est ça, notre responsabilité, d'être des témoins, d'être des frères et sœurs pour les autres. La Pentecôte a eu lieu une fois pour toutes. Le baptême du Saint-Esprit a uni les chrétiens en un seul corps. Je fais partie du corps de Christ. Je suis sa main, je suis sa bouche, je suis son pied. Lui, il est la tête. Est-ce que je réalise que je fais partie du corps de Christ ou est-ce que je suis un individualiste forcené? Moi, je suis un membre à part. Est-ce qu'on peut avoir un membre à part du corps? Il ne va pas vivre. Hein. Vous coupez votre doigt, il va rester, il va mourir. On est dans le corps, on est attaché. Même si je suis le petit doigt, j'ai besoin de mon petit doigt, il m'aide à l'appréhension. On a besoin de chacun. Le Seigneur veut que chacun dans le corps soit à sa place, joue son rôle. C'est notre responsabilité en tant qu'Église. On doit prier pour son Église, on doit évangéliser avec l'Église et on doit prier pour les Églises de France, les Églises du monde qui ont besoin d'encouragement parce que ce sont des chandeliers, des lumières dans le monde. La Pentecôte, c'est donc le don du Saint-Esprit et la naissance de l'Église. Deux grandes bénédictions, mais deux grandes responsabilités pour nous, d'être remplis du Saint-Esprit et d'être un frère, une sœur digne de ce nom. On va s'incliner dans la prière. Il y a peut-être une parole de Dieu qui vous a touché ce matin. Un point où vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Vous passez à côté de cette bénédiction d'être rempli de l'Esprit, d'être un membre du corps de l'Église. Là où le Seigneur vous a touché, il faut vite remettre ça à Dieu. Il ne faut pas remettre au lendemain, dire « Oh, ben, je verrai ça plus tard ». Non, c'est maintenant. Si le Saint-Esprit nous convainc de quelque chose, c'est maintenant qu'il faut répondre. Seigneur, nous avons besoin d'être remplis de ton esprit et pas remplis de nous-mêmes ou remplis de choses vaines. Seigneur, nous voulons vider un peu nos objets qui encombrant de notre esprit, de notre vie, et nous voulons remplacer par ta présence. Quelle grâce que d'avoir Dieu avec soi tous les jours. D'avoir le Saint-Esprit en nous. Et Seigneur, nous passons à côté de ta présence. Nous t'oublions même, ce qui est incroyable. Père, pardonne-nous cet oubli, cette négligence du Saint-Esprit. Purifie nos cœurs de toutes les idoles qu'on a accumulées à l'intérieur. Nous voulons les casser et les enlever. Et nous voulons que tu règnes dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que la vie par l'Esprit est une vie extraordinaire. Que dès demain, Seigneur, nous voyons ton Esprit agir, toucher les gens autour de nous. Que nous voyons le Saint-Esprit nous donner des victoires sur le péché, de nous donner aussi, de témoigner de cet évangile, d'être des vrais témoins, fidèles. Seigneur, pardonne-nous aussi notre manque d'amour pour les frères et sœurs de notre Église. Pour notre individualisme, notre égoïsme. Donne-nous de voir l'autre, Seigneur, avec ses besoins, ses problèmes, et de l'aimer sincèrement. Donne-nous vraiment cet esprit que tu avais, toi, d'amour les uns pour les autres. Enlève de nous, Seigneur, le jugement, enlève de nous la jalousie, enlève de nous les clans, enlève de nous les partis. Enlève de nous les compétitions, donne-nous au contraire d'être humbles, d'être serviteurs les uns des autres. Merci Seigneur de ta grâce, de ta patience. Nous voulons que tu purifies ton Église. Je prie Seigneur pour les églises de France qui prêchent ta parole, mais qui ont des difficultés, qui ont des combats ou des problèmes, ou un manque de pasteurs, un manque de zèle aussi parfois. Seigneur, renouvelle ce zèle. Renouvelle aussi le nombre de pasteurs et d'évangélistes en France. Et Seigneur, enflamme les chrétiens par le Saint-Esprit, que nous soyons brûlants pour l'Évangile. Merci Seigneur de ta parole et de ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, amen. Si le Seigneur vous a touché, ne laissez pas passer cette occasion de venir à lui. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas vraiment né de nouveau, un chrétien. Venez aussi, on peut prier ensemble et regarder dans l'Écriture. Je vais demander à Romuald de conclure ce culte.